Pise. Le thème de ce troisième dimanche de l'Avent, j'aime beaucoup le texte que Nathalie a choisi, je vais le garder, je pense, pour élaborer là-dessus. L'apôtre Paul nous dit « Vivez en paix entre vous ». L'apôtre Pierre écrit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Ou encore « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » L'apôtre Jacques nous écrit « Le fruit de la justice, mon préféré, est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle on ne verra pas le Seigneur. » Enfin, le Seigneur lui-même nous disait « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ou alors « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Tout cela pour dire que le corps du Christ est un lieu, une communauté, où rechercher la paix est une mission première. Une mission première. Mais pourquoi ? On a compris que les apôtres nous disent rechercher la paix. On a compris, ok. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous le demandent ? Question bête, n'est-il pas évident que la paix est mieux que la discorde ? Oui, c'est une évidence, mais il reste toujours intéressant de rechercher à comprendre les pourquoi. Pourquoi l'Église est-elle appelée à ce point à cultiver, à rechercher la paix en son sein ? La paix est l'état dans lequel le monde entier était avant la chute, avant que le mal ne surgisse. Notre monde n'est pas né dans la violence. Il faudrait qu'on passe des années à méditer sur cette phrase pour nous désintoxiquer. Je vous promets. Hein. Notre monde n'est pas né d'un combat. Ce n'est pas une victoire au sens militaire, de puissance, qui a permis à l'humanité de fleurir sur la terre. Non. C'est la paix de Dieu. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Bon, je vais dire des choses que j'ai déjà dit à des études bibliques ou à d'autres prédications, mais je pense que c'est vraiment important. Les anciens récits des hommes, pour raconter l'origine du monde, étaient tous remplis de violence. Vous avez peut-être des souvenirs du collège ou du lycée, de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, peut-être que ça vous a passionné, que vous avez regardé les dieux scandinaves, le Ragnarok ou j'en sais rien. Allez voir partout. Des récits remplis de violence. Pourquoi ? Pourquoi toutes ces guerres entre les dieux, ces guerres entre les monstres, contre les titans, les dragons, tous nos ancêtres, de toutes nos cultures, exactement comme nous, n'échappaient jamais à la violence ? Qui peut dire « j'ai vécu une vie sans connaître la violence » ? Qui peut dire « j'ai vécu une vie sans donner de la violence, sans utiliser la violence, sans avoir recours à elle ?» Alors, ils se sont racontés des histoires où la violence prenait un ordre dans les choses. Il y avait la mauvaise violence du chaos qui détruit et la bonne violence qui permet l'ordre. Et la prospérité, l'ordre, la civilisation étaient le fruit d'une victoire contre la force du chaos grâce à la puissance. Et tous les empires, depuis les temps anciens, et j'ose dire jusqu'à nos jours, gardent à la bouche les mêmes légendes, conquérir et dominer pour imposer la paix. Les empires imposent la paix par leur puissance militaire, économique, scientifique. L'empire Occident, qui était le nôtre, qui est le nôtre, n'a pas échappé à cette règle. Et nous aussi, nous menons des guerres pour imposer la paix. Et nous faisons des conquêtes pour apporter la civilisation, la culture, la justice sociale, la démocratie, imposer la paix. Mais nous croyons que le récit de nos origines, et nous pensons que le nôtre c'est le vrai, n'est pas un récit où l'ordre, où la vie fleurit, féconde la terre grâce à la violence, grâce à une victoire contre le mal. Lorsque Dieu crée le monde, il le fait par sa parole indiscutable. Il ne mène aucune guerre. Les éléments du chaos, qui sont représentés par l'abîme, ne luttent pas contre Dieu, ils sont simplement soumis à sa volonté. Tu dis, tu t'arrêtes là, et toi tu vas là, et ouf, ils obéissent. L'humanité peuple la terre, non suite à une victoire de puissance, mais simplement à l'expression de la volonté de Dieu. La paix ne vient pas de la guerre. La paix ne vient pas de la guerre. La paix vient de Dieu qui la donne au monde par sa parole. Tant de méditation, de réflexion, de prise de conscience que nous devrions avoir à ce sujet. La paix ne naît pas d'une victoire par la puissance, par la violence. Il n'y a pas de paix quand il y a un vainqueur et un vaincu. Mais la paix des origines, la paix du jardin d'Éden, fut de courte durée. Rapidement, la division, le conflit qui a habité le cœur des humains jusqu'à nos jours, entre l'homme et la femme, tout de suite après la chute, entre Caïn et Abel. Comment Dieu va rétablir la paix dans ce monde ? Une conquête militaire avec ses nuées d'anges. Va-t-il apparaître dans toute sa gloire aux yeux de tous les humains pour les contraindre de reconnaître son existence et de se soumettre à son autorité ? Va-t-il envoyer malédiction sur malédiction, cataclysme sur cataclysme, jusqu'à ce que ses rebelles se soumettent à lui ? Peu de violence, quoi. Non. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Pour ramener l'humanité perdue à lui, il vient comme un tout petit bébé. Frédéric a eu la joie d'accueillir Frédéric et Fabienne dans leur famille, un tout petit nouveau comme ça. Une petite. Et quand on le prend dans nos bras, la peur qui casse, tellement c'est fragile et vulnérable. Mais Dieu est venu comme ça, pour faire la paix. C'est Noël. Sans même attendre que nous reconnaissions nos torts, sans que l'on comprenne, que l'on reconnaisse tout ce que nous avons fait contre lui, tout ce en quoi nous l'avons offensé, trahi, provoqué, désobéi, renié. Dieu établit la paix entre lui et nous par Jésus-Christ. D'abord. De Corinthiens 5, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeur pour le Christ, comme si Dieu exhortait à travers nous en disant « Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et toute l'injustice que méritait nos transgressions, Dieu a choisi de la payer à l'avance sur lui-même à la croix. Avant que nous puissions lui demander pardon, avant que nous comprenions que nous étions révoltés, car il désirait par-dessus tout retrouver une relation avec nous, dans la paix. Comprenez bien ceci. Lorsqu'il a créé le monde, Dieu ne l'a pas fait par la violence, la conquête ou en s'imposant. Lorsqu'il est venu dans le monde pour retrouver son peuple, l'humanité perdue, Dieu ne l'a pas fait par la violence ou en s'imposant par la force ou en nous écrasant par des preuves indiscutables de sa puissance. Vous connaissez l'histoire de la croix. Même Jésus, dans sa victoire contre le mal, à quel moment a-t-il eu recours à la violence ? Il a triomphé du mal et du péché, non pas par la violence, non pas en défonçant la tronche de Satan. En subissant, en recevant tout ce que le diable a voulu lui infliger sans jamais céder à la violence, sans jamais répondre au mal par le mal. C'est ainsi qu'il a désarmé les puissances des ténèbres et qu'il les a exposées publiquement et qu'il les a vaincues. Et finalement, au dernier jour, lorsqu'il descendra des cieux pour revenir chez nous, chez lui, sur terre, que cette terre devienne son chez-lui définitif, Jésus établira la paix, un royaume de paix éternelle. Et là encore, vous verrez, il n'y aura pas de guerre physique. Et imaginez, vous connaissez, vous pratiquez le cœur de Dieu comme moi. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu ne supporte pas l'injustice, il déteste le péché, tout ça, d'accord ? Est-ce que franchement, vous n'êtes pas étonné qu'il supporte tout ce qui se passe dans le monde ? Déjà, il y en a parmi nous qui ont peur que Dieu se lasse de ce qui se passe dans leur propre cœur, ok ? J'en connais. Mais alors, il y en a, si Dieu va se lasser de ce qui se passe dans mon cœur, mais comment il fait avec ce qui se passe avec 7 milliards d'habitants ? Comment il fait avec ce qui se passe en Palestine ? Comment est-ce qu'il fait avec ce qui se passe en Ukraine et dans tous les autres pays où il y a de l'exploitation, de la traite humaine ? Comment il fait ? Comment il fait pour ne pas à un moment dire « Ok, là je vais leur en mettre un gros taquet parce que quand même ils vont trop loin. » Il reste aligné « J'apporterai la paix dans ce monde. » Il est impressionnant. Alors, pourquoi chercher la paix dans l'Église ? La question de départ. Pourquoi chercher la paix dans l'Église ? Peut-on vouloir être dans l'Église et attendre un royaume de paix éternelle sans la chercher maintenant ? Si Dieu est la source de paix, et que Dieu vit en moi, puis-je préférer être en conflit qu'en paix, alors que je suis un enfant de Dieu ? Si je suis un disciple de Jésus, le vainqueur du mal par le bien, puis-je chercher à vaincre le mal par le mal ? Si l'Église est la manifestation du règne de Dieu à venir sur la terre maintenant, l'antichambre, une préfiguration, peut-elle causer la discorde et la division ? À toutes ces réponses, évidemment, normalement non, mais en fait oui. Normalement non. En fait, oui. On le fait. On le vit. Mais quand même, ce n'est pas nous. Nous sommes câblés par l'Esprit Saint pour désirer la paix. Cherchez au fond de vous. Est-ce que vous désirez le mal de quelqu'un ? Est-ce que quand vous imaginez quelqu'un qui vous veut du mal ou quelqu'un qui s'oppose à vous constamment, vous l'imaginez souffrir, vous l'imaginez dans des situations pourries, des tuiles sur tuiles qui lui arrivent dessus, est-ce que vous en tirez la moindre satisfaction ? Alors cherchez la paix, mais comment ? Et je trouve que le passage de Nat, très bien choisi. Vivez entre vous en paix. Avertissez ceux qui n'assument pas leurs responsabilités, redonnez du courage à ceux qui sont abattus. Venez en aide aux plus faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Cherchez en tout temps à vous faire le bien, entre vous et envers tous. Soyez joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu vous demande. Dans cette lettre écrite à l'église de Thessalonique, l'apôtre donne toutes ces exhortations. Vivez en paix. Et j'ai l'impression que tout ce qui suit nous donne les moyens de garder le cap de cette paix. Et vous voyez comme moi que nous sommes loin de nous contraindre à dire à tout bout de champ « Oh, tout va bien, tout n'est pas grave, on se passe de la pommade les uns aux autres ». La paix que Paul nous encourage à construire dans une communauté est une paix où on avertit ceux qui sont déresponsabilisés ou qui se déresponsabilisent. On s'encourage lorsqu'on tombe, on aide ceux qui n'ont pas de force. Une communauté où la patience est une vertu, où on cherche à se faire du bien. Nous utilisons notre créativité pour faire le bien et on ne laisse pas quelqu'un rendre le mal pour le mal. Bref, que nous demande l'apôtre Paul ? En fait, il nous demande de nous aimer. Il nous demande de nous aimer. Mais pas un amour mièvre, pas un amour bisounours, un vrai amour d'adulte. Un vrai amour d'adulte. L'agapé de Paul, vivre en paix ne signifie pas ne pas faire de vagues. Il y a des vagues, il y a des remous dans la communauté, il y en a qui trichent, il y en a qui sont repris, il y en a qui veulent faire du mal aux autres et qui sont repris. Il y en a qui n'assument pas leurs réactions, leurs émotions et qui sont repris, d'une part. D'autre part, il y en a qui craquent, qui sont à bout de force, qui n'en peuvent plus, qui se découragent, qui n'y arrivent pas. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Et parfois, je trouve que dans l'Église, nous sommes plus embarrassés à ne pas nous déranger les uns les autres qu'à nous faire du bien. Surtout, frères et sœurs, ne vous dérangez pas les uns les autres. Mais se fiche la paix, c'est pas vivre en paix. C'est vrai qu'il y a des familles comme la mienne, par exemple, où ne pas se déranger est une des plus hautes formes de respect qu'on peut s'exprimer les uns envers les autres. Il y a des familles où, en fait, au contraire, si je ne m'implique pas dans ta vie, c'est que j'en ai rien à faire de toi, d'un extrême à l'autre. Mais ce n'est pas « ne vous dérangez pas les uns les autres » qui nous est demandé. C'est de nous aimer, de nous faire du bien les uns aux autres. Vous savez, on avait ce grand principe, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Mais Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Une communauté d'amour. Mais ça demande peut-être des relations plus interactives entre nous que notre culture, nos éducations nous ont habitués à. Il s'agit de créer quelque chose d'autre dans cette communauté chrétienne, de l'emmener doucement, progressivement, vers des liens fraternels entre nous d'une autre intensité, une autre densité. Et pour être franc avec vous, je suis plutôt encouragé par la tournure des événements au sein de nos communautés depuis les derniers mois. Créer une communauté où l'on s'entraide, où l'on soutient les faibles, où l'on console, où l'on relève, une communauté de pardon, de patience envers tout le monde, même envers les relous qui disent toujours oui, puis non, même envers ceux qui sont d'éternelles victimes, n'hésitez pas à trouver des distances de sécurité, parce que c'est des relations parfois coûteuses, mais c'est plus sage de se trouver la bonne distance et de rester tout le temps avec cette personne plutôt que d'y aller intensément et puis au bout d'un certain temps lâcher. Passons sur ces choses très importantes. Je reviens sur la paix. Lorsque Paul nous exhorte à vivre en paix, le moyen de maintenir la paix, le moyen de fortifier la paix entre nous, peut-être être un petit peu nuancé ton propos, Nat, c'est l'amour. Mais ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, la justice. Parfois, j'entends de voix des citations, la justice, c'est ce qui permet la paix. Du moins, pas la justice aveugle, comme on voit, vous savez, les statues des tribunaux, avec cette justice, avec les yeux bandés, qui tient d'un côté une épée et de l'autre une balance. Elle est aveugle, impartiale. La justice qui procure la paix est celle qui naît de l'amour. Donc porteuse d'un désir de paix. Porteuse d'un désir de paix. Il y a celui qui veut la justice pour avoir raison. Et celui qui veut une justice pour retrouver la paix avec l'autre. Et ce sont deux choses différentes. Parce qu'un juge qui tranche entre deux parties, qui rend justice, n'a pas apporté la paix entre ces parties. Hein. Deux enfants qui arrivent au tribunal pour un litige de divorce, non pas de divorce, d'héritage, mettons, là, c'est tranché en justice. Ah, ça y est, on est en paix entre nous. Ouf, heureusement que le juge a rendu justice, parce qu'on était en train de se taper dessus pour une histoire d'héritage, mais maintenant que la justice est venue, nous sommes en paix. Hélas, non. Ce serait bien, hein, mais ce n'est pas le cas. Si dès le départ, l'amour entre eux ne les pousse pas à chercher cette paix, ce n'est pas la justice aveugle de la loi qui va la leur apporter. Ça va apporter une non-violence. Une non-violence. Voilà. Des voisins qui s'engueulent, qui se tapent dessus, la police intervient, une enquête, machin, tac, une sentence. Ça apporte de la non-violence. Ça contient la violence, mais ça n'apporte pas la paix. En revanche, un sentiment d'amour entre ces deux parties les invitera à désirer, à vivre justement, c'est-à-dire à vivre avec justice leur rapport les uns aux autres, car la paix est alors le but que l'on poursuit. La justice devient un moyen de parvenir à cette paix, si on s'aime. Le moyen par lequel nous fortifions la paix entre nous maintenant, c'est cet amour. Et la justice va transpirer de nos relations. Mais comme une conséquence de cet amour que nous éprouvons ou que nous voulons nous offrir les uns aux autres, il faut donc apprendre toujours plus à aimer d'abord. Et peut-être le plus dur, ou en tout cas aussi dur, à se laisser aimer. À se laisser aimer. C'est souvent plus facile d'aller apporter un plat de lasagne à quelqu'un qui ne va pas bien que de recevoir un plat de lasagne quand on ne va pas bien. Ainsi, nous accomplissons les paroles de notre Maître et Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. L'apôtre Jean écrit: nous aimons car Dieu nous a aimés le premier. Autrement dit, je paraphrase, nous sommes capables d'aimer parce que Dieu nous a aimés. D'où l'importance de se laisser aimer par Dieu. Et nous le voyons, cet amour n'est pas mièvre, il n'est pas sirupeux, il est responsable, il est mature. Réellement bienveillant, réellement opposé au mal. C'est un amour adulte. C'est un amour adulte qui exige la sagesse et du don de soi. Mais c'est une forme d'amour que les enfants déjà comprennent. Et je peux vous garantir qu'une communauté qui vit cet amour n'est pas sans fruit. Une fois, je discutais avec une famille sur la question de l'autorité et de la nécessité de l'ordre. C'était intéressant comme je parviens à la même conclusion parce que dans notre débat, on voyait qu'il peut exister des sociétés d'ordre qui maintiennent l'ordre et en un sens, on pourrait dire, un semblant de paix, sans aucun amour. Vous pouvez avoir un professeur qui, dans sa classe, fait respecter un ordre impeccable, mais qui n'en a rien à faire de ses élèves. Ou vous pouvez chercher à établir un ordre par amour. Et notre Dieu qui crée le monde commence par créer un monde organisé, ordonné. Il sort le monde du chaos pour l'amener vers quelque chose de rangé, où la vie va fleurir. Mais il le fait par amour. La justice, c'est pareil. Elle est rendue par amour. Et parfois, ce qui va nous retenir de vouloir vivre, établir, rendre une justice entre nos enfants, au sein de l'Église, ce n'est pas parce qu'on veut apporter la grâce autant que parce qu'on a peur des conséquences. Donc par manque de courage. Mais ce faisant, c'est aussi un manque d'amour. Un manque d'amour. Alors, il y a toute une sagesse. On a vu, Paul nous exhorte à reprendre ceux qui n'assument pas leurs responsabilités. L'ancienne version dans la Colombe disait « ceux qui vivent dans le désordre ». Mais j'aime beaucoup « ceux qui n'assument pas leurs responsabilités ». Ceux qui ne se comportent pas en adultes, dans l'Église. Il nous faut de la finesse, il nous faut du tact, il nous faut prendre le temps, il nous faut ne pas nous précipiter à reprendre. Parce que vivre en paix, ce n'est pas chercher à avoir raison. Si je cherche à avoir raison, déjà c'est foutu. C'est foutu. Vivre en paix, c'est chercher à aimer un peu tous. Prions. Seigneur, ton projet d'église est génial. Le seul problème, c'est que tu as pensé à le faire avec nous. Et nous, Seigneur, quelle immense distance il y a entre notre façon d'être, d'aimer, de penser, de comprendre et ton amour. Mais il n'en demeure pas moins que ton projet d'église est génial, absolument génial. Alors nous sommes rassurés parce que comme tu l'as inspiré à ton apôtre Paul, c'est toi qui va accomplir ces choses en nous. C'est toi qui va nous rendre capables d'aimer comme toi tu aimes, de vivre et d'aspirer à cette paix entre nous comme toi tu aimes. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Révèle tout à nouveau à chacune des personnes qui est présente là, à ceux qui nous suivent depuis le Zoom, et à ceux qui nous appartiennent aussi, nos frères et sœurs, qui sont connectés à nous par la foi, par l'esprit, par le sang. Renouvelle en nous ta vision, comment tu nous aimes. On a besoin de se sentir aimé par toi. Et que ce sentiment d'être aimé par toi, Seigneur, nous remplisse d'une ferveur, d'un amour pour les autres. Et qu'on manifeste cet amour par des actes concrets, par des paroles, par des gestes, par des postures, par des soucis. Et donne-nous, Seigneur, toute la sagesse et toute la douceur et tout l'amour pour dire les choses de manière profonde, de manière vraie, de manière qui répare, de manière qui exhorte, qui encourage, qui fortifie, qui relève. Garde-nous, Seigneur, de chercher à avoir raison, à avoir le dernier mot. Seigneur, rappelle-nous que quand il y a un vainqueur et un vaincu, quand il y en a un qui se retrouve les dents cassées parce que les arguments qu'il avait sont nuls et que l'autre il a écrasé par son intelligence, c'est des défaites et des victoires et ça ne crée pas la paix, Seigneur. Que dans notre communauté, Seigneur, on cherche réellement la paix en s'aimant et en, Seigneur, protégeant tous du mal. Rends-nous tous des gardiens de ton jardin d'Éden, que nous ne laissions pas les serpents et les dragons rentrer chez nous, que nous les maintenions aux portes de l'Église en dehors. Aide-nous à chasser les dragons dans nos cœurs, le premier jardin où tu demeures. Merci encore de ton ambition pour nous, merci encore de te servir de nous, merci encore de ce que tu vas accomplir à travers nous en Jésus-Christ. Amen.